Bonjour Lisa Bellinghausen, docteur en psychologie et chercheuse en intelligence émotionnelle. Bienvenue aujourd'hui pour notre podcast en lien avec l'Agora de la formation organisée par l'ARFOR, l'association romande des professionnels de la formation. Je me réjouis de pouvoir prendre un petit moment avec toi aujourd'hui afin de parler de transformation. On a parlé de comment nous allons apprendre en 2030 et j'aimerais avoir maintenant votre regard à ce sujet, quand on parle de transformation.
Alors, du coup, si je comprends bien la question, c'est comment finalement l'apprentissage ou nos manières d'enseigner vont se transformer sur les prochaines années. Du coup, je crois qu'il y a peut-être plusieurs transformations. Moi, ce que je vois, c'est ce qui est l'enseignement des connaissances par la lecture ou par des cours. De l'autre côté aussi, le coaching parfois. Juste comme moyen de réflexion sur certains sujets, sans les moindres prédicteurs des apprentissages. Aujourd'hui, le grand enjeu, à mon sens, c'est comment en fait on va ancrer l'apprentissage dans le contexte de vie pro, perso, de la personne. Comment ça va prendre sens, que si j'apprends l'anglais, à quoi ça va me servir? Comment ça va pouvoir se déployer? Comment je vais pouvoir l'utiliser? Donc l'apprentissage est peut-être en train d'être de plus en plus contextualisé, parce qu'on a des temps d'apprentissage de plus en plus réduits. Donc, on a des temps d'apprentissage de plus en plus réduits. Et donc, comment, in situ, je vais pouvoir réaliser mes apprentissages? Il y a peut-être quelque chose autour de ça. Et je crois aussi qu'on va de moins en moins pouvoir faire un pas sur la dimension émotionnelle. Parce qu'apprendre est fondamentalement un acte émotionnel. On grandit en apprenant. Donc, c'est dès que nous sommes dans l'utérus, en fait, on est programmé à apprendre. Donc, l'émotion de curiosité va jouer un rôle fondamental et phare parce que c'est aussi l'émotion ressource qui va nous emmener spontanément à explorer quelque chose, mais qui aussi, quand nous vivons une expérience délicate, va nous aider à en faire sens.
Il est clair que quand on parle d'intelligence émotionnelle comme vous le faites, où vous parlez vraiment du domaine de l'éducation, qui va nous suivre et nous poursuivre tout au long de notre vie, comment ça se traduit concrètement dans le monde professionnel?
Peut-être du coup, s'il y a un pont à faire entre l'éducation et l'apprentissage dans le monde adulte, il y a peut-être quelque chose qu'on a un grand rôle à jouer, c'est donner envie d'apprendre ou donner la curiosité d'apprendre. Parfois, moi je l'observe, c'est qu'on va dire « Ah, la curiosité est un vilain défaut » ou « Attention, là on n'a pas le temps de poser des questions ». C'est un peu ce que moi j'ai pu vivre en tant qu'enfant ou ce que je vois chez mes enfants. Et je crois du coup on jette finalement des mauvaises bases à l'apprentissage dans le monde adulte. Le monde adulte, on va avoir besoin de plus en plus d'apprendre parce que le monde s'accélère. Il devient de plus en plus volatile, de plus en plus ambigu. Et donc, notre capacité à nous repositionner sans cesse, à développer des nouvelles compétences in situ, est de plus en plus différenciant. Alors, dans le monde du coup de la formation adulte, je crois que ce qui va être intéressant, c'est quand on a une situation d'entraîner aussi des schémas comportementaux et émotionnels différents. Et de donner cet espace. C'est pour ça que moi, j'adore travailler avec le cheval. Parce que quand on travaille avec le cheval, on a par exemple une manière de l'approcher. Et du coup, le cheval, il recule. J'ai eu comme ça une personne que j'ai pu accompagner. Et du coup, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu te dis quand tu approches le cheval? Et du coup, elle me dit, ah, il est quand même grand, il est intimidant. Et du coup, en fait, elle avait une sorte d'appréhension. Et le cheval étant un animal de proie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il a senti l'appréhension? Il a pris ça comme une signalisation d'alerte et donc il a reculé. Du coup, comment faire que le cheval suit la personne que j'accompagne? On a changé le dialogue intérieur et donc on a dit « Ah, ce cheval, il est beau, il est ouvert, il va être intéressant à découvrir. » Et tout d'un coup, le cheval ne partait plus dans l'autre sens. Et donc là, en même pas 5 minutes, on a eu une expérience correctrice, une expérience d'un nouveau chemin qui est plus payant, relationnellement parlant. Et du coup, je crois, nous, notre grand challenge, c'est comment on peut Là, c'est avec le cheval, mais comment nous, en tant que formateurs adultes, on peut créer des moments d'expérience qui font une différence, qui font j'ai un schéma, j'apprends un nouveau et je vois la portée différente de ce que ça fait.
Quand on parle de l'organisation, on parle de performance. Et il est vrai que quand on arrive avec l'intelligence émotionnelle, il y a un peu des gens qui sont assez frileux avec ça, parce qu'ils se disent, mais c'est la performance qui prime. Est-ce que vous avez eu, vous, l'expérience en entreprise de, ben voilà, donner les explications, donner des éclaircissements aux organisations en disant, mais faites attention, c'est hyper important cette intelligence émotionnelle, car ça peut améliorer en fin de compte la performance.
Et on va même plus loin, parce qu'on dit que finalement, la performance, c'est une conséquence. Et en travaillant l'émotion et l'intelligence émotionnelle, on crée le terreau favorable à l'excellence. Alors effectivement, si je prends un exemple un peu peut-être caricatural, mais si moi je suis bien, personnellement, alignée avec mes émotions, je sais les exprimer, je sais les utiliser comme des boussoles de ma motivation, de mon engagement, de mon chemin de vie pro-perso, ben finalement, je suis aussi en mesure d'être en lien avec l'autre. Et du coup, d'ajuster le lien si nécessaire, parce que les émotions déplaisantes vont me dire, là, il y a peut-être un ajustement à opérer, et ils vont même me dévoiler dans quel sens l'opérer. Les émotions plaisantes vont me dire, et vont aussi signaler à l'autre que là, on est dans le bon, dans le juste, que j'aime travailler comme ça. Et du coup, en fait, ce terreau de lien agile, confiant, cette sécurité, finalement, va faire que nous pouvons être performants. J'ai un exemple comme ça, j'étais en formation avec manager et dirigeant, et il y avait un des personnes, il y avait une des personnes qui avait géré une situation de crise. Il y avait plus de 1500 agents impactés, ils étaient plus en mesure de travailler, donc quand même une grande crise de ce point de vue. Et donc, on débriefe émotionnellement la situation de crise et il me parle de ses anxiétés. Donc moi, naturellement, je me dis, il porte sur la situation. Et donc, en analysant avec lui son émotion, il me dit, son anxiété portait sur le jugement de son supérieur sur les décisions qu'il allait prendre. Et du coup, si je prends cet exemple, sur 100% de cerveau mobilisable pour gérer la crise, 30% étaient occupés à gérer l'image, l'impact potentiel des décisions sur l'image au regard de l'hiérarchie. Et du coup, il est amputé quelque part de 30% d'énergie pour performer. Et c'est en ce sens-là que nous, on dit que finalement, la performance est une conséquence, parce que si mes émotions deviennent juste des opportunités pour s'ajuster, pour être plus agile, tout le reste de mon énergie peut être mobilisé pour exceller, pour produire de la performance. Et c'est ce qu'on voit. On a des entreprises où on accompagne de la tête aux pieds, tous les strates, et quand on a formé 30%, il y a une sorte de bascule de la culture vers quelque chose où la relation prend le premier plan. Et du coup, la performance, elle se produit. Et on nous dit, c'est un peu magique, parce qu'en fait, je peux être dans l'innovation, parce que je n'ai pas peur d'être jugée pour mon idée, je peux y aller, je peux la partager. Et du coup, ça libère une énergie et on voit un vrai gap. Donc, on travaille avec les hauts performants du sport, des entreprises, que ce soit des secteurs comme les pompiers, les militaires, où on n'a pas trop droit à l'erreur non plus, mais aussi d'autres secteurs. Et c'est toujours ce résultat qu'on observe. À un moment, arrêtons de mettre la performance comme un objectif. Ce qui est l'objectif, c'est créer en fait le tissu relationnel dense qui va faire que la performance est une conséquence.
En tout cas, ce que j'entends, c'est que l'intelligence émotionnelle, du moment que les personnes en prennent réellement conscience, quand on parle de gouvernance surtout, c'est que ça marche. C'est que vous avez eu cette expérience-là.
Et ça marche vraiment. Par contre, l'intelligence émotionnelle, il y a des outils. Et c'est ça qui va être important. Nous, quand on travaille avec les entreprises, on partage évidemment les fondamentaux, mais après, on partage avec eux des outils. Et ces outils-là vont être injectés dans l'animation des équipes, vont être injectées dans la gestion du projet. On démarre un projet, on pose la question, qu'est-ce qui va faire qu'on est fier à la fin collectivement? Ça va nous aider à structurer comment conduire le projet. Donc l'intelligence émotionnelle doit être traduite en outils concrets, pragmatiques, que tout le monde peut s'en saisir et que du coup, les gens utilisent en complémentarité. Et c'est ça qui va être important.
Et dans votre expérience, le temps qu'il faut pour vraiment implémenter ce côté de l'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est combien? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les organisations veulent faire vite les choses. Ou quand on parle de formation, on parle de changement, il y a des éléments que, de temps. Et qu'est-ce que ça, comment c'est traduit chez vous?
Alors, le temps, moi, j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on disait qu'il y a le temps de l'humain. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, nous, on a fait des démarches. En un an, on change énormément de choses. Donc, quand on met le top management au diapason, je crois qu'on dit en français, mais voilà, ils s'en saisissent et ça redescend. On forme les lignes managériales. On forme 30% des collaborateurs. On met l'intelligence émotionnelle dans les process RH de mobilité, de recrutement, de reward. On intègre l'intelligence émotionnelle dans les process de récompense. Finalement, en un an, il y a énormément de choses qui changent avec, pour le top management, 2 jours et du suivi, parce que c'est eux qui pilotent la démarche. Donc, on a des ateliers de suivi tous les 3 mois, de la démarche, du déploiement. Pour les autres niveaux, 1 jour plus un atelier de suivi et on change déjà énormément de choses.
Si on devait se projeter maintenant en 2030 et que vous regarderiez en arrière, quelle est la transformation que vous verriez?
En fait, je crois que la transformation que moi je verrais vraiment, c'est qu'on prend l'émotion comme facteur d'apprentissage et de toutes ses facettes. Je crois qu'on est dans une société où on est dans le plaisir et on recherche le plaisir et c'est extrêmement difficile parfois d'accueillir la difficulté. Et je crois, et peut-être c'est un espoir de ma part, qu'aussi on va sur l'apprentissage comme une expérience émotionnelle complète. On sait que la satisfaction est décorrélée du niveau d'apprentissage. Et j'espère qu'en 2030, on le décorrèle vraiment. Parce que parfois, on apprend des expériences extrêmement difficiles où on a sué quelque part énormément de choses. Et je crois que c'est fondamental qu'on intègre ça aussi dans l'apprentissage, que oui, la curiosité aide, oui, l'envie aide, mais c'est aussi l'anxiété, c'est des moments où on a eu peur ensemble. On sait qu'une équipe, une synergie d'équipe se construit dans les grands moments de difficulté. Soit ça marche, ça rapproche les gens, ça crée l'agilité et derrière, il y a autre chose qui naît, soit l'équipe se délite. Donc, on a aussi ces enseignements-là où, attention, oui, c'est important d'avoir du plaisir dans l'apprentissage, mais je pense qu'il est important aujourd'hui de décorréler satisfaction et apprentissage. Si j'apprends, je dois restructurer l'information, je dois désapprendre certaines choses, ce qui oblige mon cerveau à créer des nouveaux chemins neuronaux, de délaisser certains. Et ce n'est pas toujours confortable. Et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que moi, en tous les cas, j'espère qu'on va voir vivre aussi, que c'est une expérience émotionnelle complète.
Merci beaucoup, Lisa Bellinghausen. En tout cas, c'est un éclairage hyper intéressant et belle journée à vous. Merci beaucoup.
Merci, Manila.